vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ce matin, Max, je me permets de vous amener, toi et les auditeurs, dans mon quotidien un peu, dans mon day-to-day des dernières semaines. Je m'en suis pas cachée, je suis à la recherche d'une maison dans les dernières semaines avec mon amoureux et c'est un foutoir.
Mais j'en doute pas.
Ma première expérience de maison, j'avais l'impression que ça avait pas été si pire que ça, on dirait. Je sais pas si c'est le bonheur d'acheter une première maison puis t'es moins découragé, on dirait que tu veux trouver la tienne. Le fait qu'on la cherchait peut-être à long terme un peu plus.
Ça se peut-tu aussi le fait que vous ne vouliez pas nécessairement être à Québec directement?
Ça a dû aider. Pour vrai, là, quand tu es à 50 minutes de Québec, non, c'est sûr que les prix, le pire, c'est que... Puis on posera la question à mon invité ce matin, mais j'ai le sentiment que les prix ont augmenté quand tu t'éloignes aussi. Mais peut-être la facilité... Écoute, je sais pas, je connais pas ça.
Peut-être moins de monde qui... il n'y a pas 26 offres de surenchères.
Effectivement. Mais là, l'expérience que je vis en ce moment est poche. Elle est vraiment poche, puis elle est comme décourageante, pour être bien honnête, au point où tu remets un peu tes plans en question, tu sais. Puis je sais que je suis vraiment pas seule, parce que chaque fois qu'on parle d'immobilier à Québec, on reçoit des textos à la tonne. Fait que si vous avez des questions, vous êtes dans ce processus-là en ce moment, 418-971-1021. Quand je dis que je vous amène un peu de mon quotidien en ondes, c'est au-delà de ce que je vis, j'amène ma courtière carrément en ondes. Stéphanie Dufresne, qui est courtière immobilière, avec qui j'ai fait le processus de ma première maison, puis qui là m'aide à trouver ma deuxième. Et j'en ai tellement des questions au quotidien que je me suis dit, je dois pas être seule à les avoir, Max. Toi, t'es propriétaire d'un condo.
Oui, puis ça avait quand même bien été. Je pense qu'on avait comme eu deux offres refusées avant que le troisième, puis le troisième qui était mon plus grand coup de cœur, ça a été accepté. Fait que moi, ça a comme vraiment bien tombé jusqu'aux travaux de 60 000 piastres.
Ouais, t'as eu des petites surprises par la suite.
Ça, les premiers mois, c'était bien le fun.
Stéphanie, bon matin.
Allô, Audrey.
Je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça ensemble. En fait, ça me fait rire parce que c'est dans les derniers jours que j'ai eu ce flash-là de me dire « Hey, si moi j'ai autant de questions puis je te texte constamment de même, clairement, je suis pas toute seule dans ce bateau-là. » La réalité du marché en ce moment. On entend constamment dire que c'est difficile, c'est pas facile, la surenchère, le ci, le ça. Est-ce que c'est réellement ça? Comment ça se traduit?
C'est rough. Je dois avouer, particulièrement sur la rive nord de Québec, il manque d'inventaire. Alors, il manque tellement d'inventaire, puis on a plein d'acheteurs qui sont prêts à acheter, qui sont toutes pré-autorisées à acheter, puis les gens vendent pas. Alors, on se retrouve avec très peu de maisons à vendre, puis beaucoup d'acheteurs au rendez-vous, ce qui fait en sorte que ça pousse dans la porte pour être capable d'acheter, ce qui fait qu'on se retrouve à faire des visites, on se retrouve à faire des offres, puis, bien, on l'a pas. Alors, c'est pas rare qu'on se rend à 4, 5, 6 maisons qu'on doit faire des offres avant d'être capable de trouver la bonne.
Puis t'as même pas le temps de faire une offre sur ton deuxième coup de cœur, mettons, parce qu'on dirait que tout est présent. Le feeling que ça donne, là, comme cliente, je parlais, on dirait que tout est présenté en même temps. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, nous autres, on avait comme deux maisons dans l'œil, on s'était dit, on va faire une offre sur notre préféré, mais la même journée, c'est présenté, puis il m'a dit, Max, qu'on n'a pas eu la nôtre, puis on n'a pas eu la chance de bêter sur la deuxième qu'on voulait. T'sais.
Non, c'est ça. Bien, en fait, là, les courtiers, on se trouve des stratégies quand on met une maison en vente, parce qu'on sait qu'on va se faire bombarder de demandes de visite. Et pour essayer de donner aux gens l'opportunité de visiter, on va dire, bien, on va présenter les offres un petit peu plus tard, après le week-end, pour que tout le monde ait le temps de visiter. Oui, ça va aider le vendeur, mais d'un autre côté, si on met en vente une maison un mercredi, puis toi, bien, tu travailles, tu n'as pas le temps d'aller la visiter, tu as le week-end pour faire tes visites, bien, tu trouverais ça poche, finalement, de te retrouver à ne pas être capable d'aller la voir, cette maison-là. Alors là, ce qui fait en sorte que toutes les offres, on a l'impression que c'est tout présenté en même temps. Oui, puis non, on ne peut pas faire deux offres sur deux maisons différentes
en même
temps.
Et je l'avais, cette question-là. On peut-tu péter à plusieurs endroits?
On ne se part pas un parc immobilier parce que c'est vraiment un contrat. Tu ne peux pas, d'un coup que tu les as les deux, tu ne peux pas te partir un parc immobilier. Là, t'es lié par contrat. Alors, à ce moment-là, on essaie de se trouver des stratégies. Il y en a une qui est présentée à 3 heures, l'autre est présentée à 5 heures. On va savoir tout de suite si celle-là à 3 heures, on l'a. On en a une en backup qu'on fait signer un petit peu plus tard. Oui, on arrive à ça, à être obligé de faire du multi-off, mais pas tout en même temps.
Comme courtière, t'accompagnes des gens, des fois des couples dans cette aventure-là, que des fois, c'est ça, c'est une offre refusée, deux offres, trois offres, quatre. Il y en a-tu qui abandonnent carrément à un moment donné. Il y en a qui doivent se dire, OK, non, ça n'a juste plus de bon sens, on se reparle dans trois ans. Là.
Oui, mais la problématique avec ça, c'est que dans trois ans, les prix vont augmenter.
Ça va être plus cher, ouais.
Bien, je me demande, c'est ça que je voulais te demander, parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. Hein. Puis là, c'est dur comme acheteur ou comme premier acheteur ou quand tu n'es juste pas dans ce domaine-là de comprendre. Et moi, je me suis fait dire plein de choses. Là. Ça ne vaut pas la peine que tu achètes en ce moment parce que là, le marché, ça va se stabiliser dans 5-6 ans. Fait que quand tu vas vouloir vendre, tu n'auras jamais ton prix pour te rembourser. On entend toutes sortes de choses qui font que tu paniques. Puis là, tu ne sais plus quoi faire. Je suis mieux de louer? Je suis mieux d'acheter? Je suis mieux d'acheter maintenant ou dans 3 ans? Pour combien de temps? C'est rough, là.
En fait, si tu es déjà préautorisé puis tu peux te permettre d'acheter, bien, achète tout de suite parce que là, on a la preuve depuis plusieurs années. En fait, c'est vraiment la COVID qui a fait un peu le changement. Avant, on était comme dans un marché un petit peu plus équilibré. Puis là, on est vraiment dans un marché de vendeurs. Alors là, ce qui fait en sorte que les prix sont vraiment à la hausse, Québec a la cote. Alors, on a beaucoup de gens. Québec est en train vraiment de grossir, ce qui fait en sorte qu'il y a plein de gens qui veulent s'acheter une maison à Québec. Fait que les prix vont continuer à augmenter. On a des 16-17 % de 2024 à 2025 d'augmentation sur l'unifamilial. On a encore un autre 10 % à date sur 2026 par rapport à 2025. Puis on n'est même pas rendu dans les prix de Montréal. Là. Alors, oui, c'est le moment d'acheter là. Oui, ça va augmenter. Puis même si on a l'impression qu'on paye trop cher présentement, dans une couple d'années, on va avoir atteint les prix de Montréal, probablement. Là, je dis probablement, c'est mon opinion personnelle. Donc, ça va le valoir. Fait qu'il ne faut pas penser... T'es pas perdant.
Est-ce que t'es mieux d'acheter peut-être moins cher ou même te tourner vers le condo en disant « Regarde, je vais être dans un condo 5, 6, 7 ans, lui aussi va prendre de la valeur, puis là, après ça, peut-être que je pourrais m'acheter une maison. » C'est-tu quelque chose qui peut se faire?
Ben oui, puis moi, comme je dis à tous mes clients acheteurs, tu sais, acheter une maison ou un condo, c'est l'art du compromis. À un moment donné, t'as un budget X que tu peux pas dépasser. Est-ce que tu veux... t'en aller en condo puis dire, bon, ben OK, je vais le faire 5 ans dans un condo. Après ça, je vais m'acheter une maison. Mais l'unifamiliale, elle va rester, elle va augmenter encore, là. Elle va rester encore plus chère que le condo, c'est sûr.
Ça vaut la peine de s'informer puis faire affaire avec quelqu'un parce que, par exemple, je sais pas, mettons, on met des chiffres. Moi puis Max, on est en couple puis on est prêt à prouver pour 500 000. Mais magasine pas dans cette table-là de prix parce que je t'annonce que ta surenchère va faire en sorte que tu vas payer pas mal plus. Puis ça, je voulais te le demander, jusqu'à combien de plus tu peux payer en ce moment? Tu sais, mettons, moi, je cherche une maison, là, j'évalue que je vais la payer. Comprends-tu ce que je veux dire? Le seuil auquel je commence, il est où pour avoir un prix qui fait du bon sens? Là?
En fait, moi, je vois de tout. Tu sais, on peut voir du 25 000, 40 000 de plus que le prix qui est demandé, comme il y a des maisons qui sont à 150 000 de plus que le prix demandé.
Puis c'est quoi la différence? Parce qu'on dirait qu'il y a un jeu sur le marché en ce moment de « je vais mettre ma maison vraiment moins chère pour attirer des visites », sachant que justement, on va mettre 100 000
ça,
de plus.
Ça, c'est une game qui est un petit peu difficile à gérer parce que, mettons, que tu décides de l'afficher moins cher avec tes clients vendeurs, mais que tu n'as pas de visite, mais que, dans le fond, tu pensais vendre beaucoup plus cher puis que, finalement, tu as une offre au prix que... tu demandais, bien, moi, mes clients, ils ne seraient pas vraiment contents de ça. Alors, moi, je préfère vraiment afficher au juste prix puis avoir probablement un petit peu moins de visites, mais avoir des gens qui sont préqualifiés pour le prix qui est offert que d'avoir 75 visites. Puis on l'a vu récemment, là, le 75 visites dans un week-end.
C'est débile.
Bien, oui. Ben oui,
des fois, t'es comme 22 sans la même maison, 24 heures.
Mais les gens, ils n'ont pas tout l'argent pour être capables de l'acheter en surenchère. Ça fait que tu fais des visites pour absolument rien, là.
Oui.
Alors, ça fait juste booster pour rien.
Puis comment tu fais pour savoir, bien là, tu vas me dire, j'imagine, c'est là l'importance d'avoir un courtier, mais pour savoir la valeur de la maison versus la surenchère que tu mets. Par exemple, ma maison est affichée à, je sais pas moi, 420 000. Elle n'est pas tant haute, elle est genre des années 50, puis elle n'est pas super belle, mais elle finit à comme 512 000, mettons, là, on jase. Bien, je fais comment, moi, pour savoir, comme acheteur, que là, hey, dépasse pas cette surenchère-là, c'est parce que ça vaut pas la peine de ce qu'il va falloir que tu mettes dedans.
Tu le sais pas.
J'ai l'impression que c'est ça.
En fait, elle va finir par arriver à cette valeur-là. Puis moi, comme je dis à tous mes clients acheteurs, pour être capable de rentabiliser vraiment son achat, il faut rester un minimum de 5 ans dans la maison parce que ça coûte cher acheter une maison. Oui. On a la taxe de bienvenue, on a...
taxe scolaire.
Bien, ça, c'est annuel, mais...
Le notaire,
la peinture, etc.
On conseille pas de rester 2 semaines. Là.
Non, idéalement.
Ou quelques mois.
T'es drôle,
c'est
Max?
Ça, c'est difficile de rentabiliser son achat dans ce temps-là.
Oui, c'est bien. Quand t'as quelqu'un de bon à tes côtés, m'a passé le chapeau, voilà. Steph, ça fait un job. on entend souvent dire est-ce que c'est encore vrai, bonne question, mais quand tu t'éloignes, tu vas peut-être payer moins cher. Si tu vas en périphérie, mettons, de la capitale nationale, peut-être que tu vas être capable de trouver quelque chose de mieux pour moins cher. Est-ce que c'est encore un fait?
Bien, en fait, oui. Plus tu t'éloignes du centre-ville, moins ça va te coûter cher, mais est-ce que tu es prêt à faire ce compromis-là?
De route.
Oui. Et d'être éloigné, puis de prendre ta voiture, puis là, avec le prix de l'essence, puis il faut tout penser à ça. Alors, des fois, t'es peut-être mieux, justement, d'aller dans un condo au centre-ville parce que tu veux pas faire de route. Fait que c'est vraiment à l'acheteur de se poser les bonnes questions.
C'est quoi tes besoins?
C'est ça.
J'ai envie qu'on parle de tout ce qui est... bon, parce que là, quand tu t'éloignes, c'est une chose, mais je veux prendre l'exemple de Val-Bélair. J'ai un amoureux en ce moment qui, moi, est très limité dans ses envies de secteur, je vais le dire comme ça. Okay?
C'est un monsieur de l'Ouest.
Qu'est-ce qu'il y a contre Val-Bélair?
Non, mais moi, j'ai appris quelque chose, Max, toi qui n'es pas d'ici non plus. Il paraît qu'il y a comme une guerre Est-Ouest. tu sais, lui, il est de Cap-Rouge, fait que tu comprends, il y a des secteurs Beauport.
Ah ouais, hein?
Il y a des secteurs. Puis pourtant.
Charlebourg, c'est correct?
Ben écoute, là,
c'est limite.
C'est limite. Okay. Parce que moi, Beauport, c'est un secteur que mon frère habite là. Il y a tellement des belles maisons. C'est un beau secteur. Moi, dans ma tête, qui n'a pas grandi ici.
Mais c'est un vrai blocage, là?
Bien, ben, les gens de l'Ouest veulent rarement aller dans l'Est.
Moi, je te dis, on a un enjeu.
Ah, ouais.
On a vraiment un enjeu. Ce qui fait en sorte que ça te limite aussi, moi, de dire. Mais mettons que je prends Val-Bélair, qui vient avec un bagage de jugement, j'ai remarqué, de certaines personnes.
C'est moins pire
de
qu'avant,
Québec,
par exemple.
Définitivement. Parce que moi, quand je suis arrivée à Québec, ça n'a pas été long que j'ai déménagé dans le coin de Shannon. Puis moi, j'ai adoré le secteur. Là. Le secteur est en développement. Il y a des super beaux spots. Tu as du terrain en arrière. Moi, tu me rejoignais à 100%. Mais il y a du monde qui... Val-Bélair, il y a un skidoo sur l'entrée en avant, puis ce monde-là... Bon. Est-ce que tu peux évaluer... Mettons qu'on parle stratégiquement, je veux acheter une maison. Est-ce que tu peux évaluer qu'en allant t'installer, par exemple, à Val-Bélair, qui est en développement, bien, ta maison va valoir plus cher dans plusieurs années parce que le secteur va être entièrement développé au bout d'une couple d'années, ou c'est un raisonnement cabochon, mon affaire?
Bien, on est capable de l'évaluer un petit peu, mais on travaille avec des statistiques aussi. Là. On les a toutes, ces statistiques-là, par secteur. Ça fait qu'on est capable de voir Val-Bélair en 2024, c'était combien? En 2025, c'était combien? En 2026, on s'en va vers quoi? Fait qu'on... Oui, il y a une prise de valeur, mais ça dépend aussi de qu'est-ce que tu fais avec ta maison. Si tu ne l'entretiens pas puis tu la laisses se dégrader, elle ne prendra pas autant de valeur que si tu y fais des rénovations majeures. Là.
Non, c'est sûr. C'est quoi la différence la plus grosse entre faire affaire avec un courtier puis faire affaire, par exemple, avec une plateforme libre? Il y a beaucoup de gens autour de moi, qui, par souci d'économie, souvent, c'est le premier réflexe qu'ils vont avoir. Souci d'économie, je vais me mettre sur une plateforme, me mettre moi-même mes photos, moi, essayer de vendre ma maison sur Marketplace ou toute autre plateforme un peu plus crédible. Puis le fait de faire affaire avec un courtier, mettons, dans un marché actuel.
Mais là, tu parles pour la vente ou pour l'achat?
Moi, j'ai envie de te dire pour l'achat, là, parce que je suis dans ce bain-là. Mais écoute, pour la vente aussi, là, on a des éditeurs qui vendent. Là.
Oui, mais pour l'achat, je te dirais, ça ne te coûte rien de travailler avec un courtier qui prend en charge toutes tes visites, qui t'envoie toutes les informations, puis qui est capable de voir aussi, justement, c'est quand les visites, c'est quand qu'on dépose les offres. Tu n'auras pas ça si tu n'es pas accompagné. En fait, moi, je le vois quand je fais des inscriptions puis que je vends des maisons. 2 semaines plus tard, j'ai des clients qui sont non accompagnés d'un courtier qui essaie de me joindre. Mais là, ça fait longtemps qu'on a eu une promesse d'achat. Là. Ils ont manqué, ils sont en arrière du train.
Non, c'est ça, ils ne voient pas les choses.
Exactement. Mais... Tandis qu'avec un courtier, bien là, on sait justement, c'est en temps réel, c'est quand que ça se passe. Il y a vraiment, c'est un travail d'équipe là, à dire, OK, bien là, on va planifier des visites telle journée, les offres vont être présentées tel moment. Mm. Puis avoir un courtier, ça enlève aussi du stress parce que vous avez tout le bagage émotif en tant qu'acheteur. Moi, je dors bien la nuit, là, ça va bien. J'enlève le côté émotionnel et je m'assure de faire en sorte que vous, vous ayez un bel achat aussi.
Connais
là.
Tes clients aussi. Là.
Oui.
Tu as parlé de prix, ça ne vous coûte rien comme acheteur. Ça veut dire que vous, vous êtes payé vraiment avec les vendeurs.
Avec les vendeurs, oui.
Tout le temps.
Tout le temps. En fait, si les gens vendent par eux-mêmes, on a ce qu'on appelle, nous autres, un contrat courtage-achat. Les lois sur le courtage immobilier ont changé et quand on travaille ensemble, on a un contrat courtage-achat. Et ça dit que si toutefois on n'est pas sur le site de Centris, bien, tu vas me devoir une commission. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on le met dans ton prix d'achat de ta maison. Quand, mettons que tu irais acheter une maison qui est à l'extérieur, oui. justement, de la plateforme Centris. Alors, en fin de compte, le vendeur, lui, il va se retrouver à avoir la commission déduite du prix de vente de la maison. Ça fait que, oh, si on le regarde de cette façon-là, l'acheteur, lui, il ne paye pas la commission. Là.
À quoi on doit faire attention quand on commence, mettons, à magasiner des maisons? On est souvent très émotif comme acheteur. J'ai l'impression que... Moi, je me suis fait prendre sur une chose dans une visite qu'on a fait ensemble. Quand c'est beau, quand c'est bien décoré, quand c'est bien arrangé dans ma tête, on est là. On est là, on peut y aller. Ça. Mais c'est pas toujours le cas. Fait qu'à quoi faut faire attention pour pas se faire prendre? Parce que l'émotion est très présente.
Mais Audrey,
t'es
l'acheteuse typique, là.
J'en
Toi, t'aimes ça quand c'est bien décoré, quand c'est Pinterest. Et il faut
c'est
aller
ça, c'est
au-delà de ça.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, je te laisserais pas acheter une maison avec une fondation en bloc de béton. On a vu des trucs, tu sais, qu'il y avait eu des infiltrations d'eau, qu'il y avait des travaux majeurs à faire. Mais la cuisine était haute, le salon était haute. Alors, il faut vraiment enlever le côté tape à l'œil pour être capable de voir est-ce que la maison, c'est une bonne structure? Est-ce que je suis capable d'arriver à mes fins avec la grosseur de la maison, là?
Pourquoi les maisons sont vendues sans garantie légale de plus en plus? On dirait qu'en ce moment, il y en a qui mettent plus de conditions, en fait, quand tu veux acheter parce que c'est fou comme marché. À quel point? Ben, en fait, mais pourquoi?
Oui. Ben, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Premièrement, le parc immobilier à Québec est vieillissant, puis il y a beaucoup de personnes qui s'en vont en résidence pour personnes âgées. À ce moment-là, on enlève la garantie légale. Quand c'est des personnes âgées, des successions, c'est normal d'enlever la garantie légale de qualité. Après ça, on est dans un marché vendeur. Les gens, ça ne leur tente pas. Eux autres, ils se disent « ma maison va partir pareil, je vais l'enlever la garantie ».
Mais alors, c'est un drapeau rouge pour des acheteurs, parce qu'on dirait que là, tu ne sais plus, là.
Bien, pas tant.
Y a-tu de quoi cacher?
Présentement, il faut vivre avec ça. Est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, non. Mais ça vous ça fait en sorte, dans le fond, là, qu'il faut absolument faire inspecter sa propriété, justement pour ne pas se retrouver avec des problématiques, puis qu'après ça, on n'a pas de recours.
Ça dérange-tu un vendeur, ça? Que ce soit conditionnel à l'inspection ou ça
protège les deux
parties.
Ça protège les deux parties. Puis il faut que ça soit vu plus comme un carnet d'entretien.
Jusqu'à... écoute, il m'en reste deux, Steph, parce que j'ai l'impression que je pourrais te bombarder pendant encore une demi-heure. Je vois le temps passer, là. Jusqu'à combien de visites un acheteur peut faire maximum? Moi, je me souviens, quand on a fait le premier processus ensemble, des fois, je me sentais mal. J'étais comme, ah, mon Dieu, une autre visite où finalement, je l'aime pas, tu sais. Y a-tu un nombre de visites maximales ou un nombre de temps que tu passes avec un client maximal?
Bien, mon maximum, moi, c'était 73 visites.
Que tu avais fait,
j'ai
juste...
fait
hey, intense,
avec des
là.
Clients acheteurs. Ça a été le plus gros, le chiffre le plus gros. Habituellement, je te dirais qu'en une vingtaine de visites, on a trouvé. Des fois, on peut se rendre jusqu'à 30, puis ça dépend aussi combien d'offres. Mais moi, j'accompagne vraiment mes clients pour m'assurer qu'ils ne perdent pas... Ils perdent
pas
patience et qu'ils soient découragés. J'ai toujours des mouchoirs, mais je les sors rarement. J'essaie de vous remonter le moral.
Ah, ben c'est vraiment pas un marché qui est particulièrement facile. Puis là, ben, on parle de la vision acheteur parce que tu l'as dit, c'est un marché de vendeurs. J'ai l'impression que ça, les gens n'ont pas de problème en ce moment. Je vais te demander comme dernière question parce qu'on a deux nouvelles stagiaires à Boulevard qui n'ont pas encore acheté de maison. On parlait de ça tantôt hors d'onde. Conseil pour des premiers acheteurs. T'sais, là, moi, j'ai comme la petite expérience de quelques mois parce que j'ai travaillé avec toi, tu sais, sur l'achat d'une première maison, mais je me souviens comment j'étais un chevreuil sur l'autoroute quand je me suis ramassée dans ce marché-là. Fait que as-tu des conseils à donner pour quelqu'un qui, bon, mon Dieu, entame le magasinage d'une première maison?
Bien, la première affaire, ça va être de se prendre un courtier en qui qu'on va avoir confiance puis qu'on a vraiment le goût d'être en équipe parce que c'est clairement ça. On fait vraiment une équipe et on se voit tous les week-ends.
Oui. Et puis, c'est pas exagéré. Hein?
Non, pas du tout. Alors, c'est de se trouver un courtier. Puis, le courtier, lui, va pouvoir donner ses stratégies. Bon, premièrement, aller se faire préautoriser. On peut acheter pour combien? On veut être où? Tu sais, il va poser les bonnes questions. Ça fait que c'est de bien s'entourer tout de suite en partant, ce qui va faire en sorte qu'on s'en va. On s'en va pas partout et on s'éparpille pas.
Je vais revenir sur les condos. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a eu des histoires d'horreur dans les dernières années? Puis, tu sais, j'ai mon histoire personnelle qui est vraiment pas cool, mais qui est pas au niveau non plus de gens qui ont acheté quelque chose puis que finalement, ils ont tout perdu à part peut-être un peu la valeur du terrain. Ou, puis même là, c'est souvent des grenailles. Là. Est-ce que ces histoires d'horreur-là qu'on a vu passer dans les médias est venue refroidir un petit peu le marché du condo ou certains acheteurs?
Pas tant, parce que le gouvernement s'en est mêlé. Maintenant, ouais. Il y a des lois sur la copropriété qui fait en sorte que c'est beaucoup plus pris en charge, justement, pour pas que les copropriétés soient laissées à elles-mêmes puis que ça soit du n'importe quoi. On a eu beaucoup de problématiques avec des dégâts d'eau, puis là, ce qu'on retrouvait, c'était des copropriétés qui n'étaient plus capables de s'assurer. Alors, on a un très bon gestionnaire dans la ville de Québec, qui est la France et Mathieu, entre autres. Il y en a plein d'autres. Souvent, on est obligé d'aller en gestion externe, justement, pour faire en sorte que ça soit géré, comme on dit, ça coche.
Mm. Si vous êtes dans ce foutoir-là en ce moment, je compatis. Bonne chance. Vous allez la trouver, votre maison. Vous allez la trouver. Steph, c'était un plaisir. Stéphanie Dufresne, courtière immobilière. Merci d'avoir pris le temps ce matin.
Hey, ça m'a fait plaisir.
Au retour, un petit tour de nouvelles. Il y a une nouvelle députée du Parti conservateur du Canada qui passe au gouvernement de Mark Carney, qui se retrouve donc à un petit siège de la majorité. Et bon, de toute façon, ça allait être atteint, cette majorité-là, dans les prochains jours avec les élections partielles. Mais ça va nous donner vraisemblablement une majorité un petit peu plus confortable. Et Pascal Cévé va venir faire son tour aussi. En fin d'émission, vous écoutez Le Point de Max, 11h29.